Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Ils nous avaient manqué, ils étaient de retour, ils nous ont réservé des surprises, ils nous ont offert de belles émotions. Les éliminatoires de la CAN, 3e et 4e journée, ont animé les amoureux du football africain ces derniers jours. Quand le ballon rond roule sur le continent, nous ne boudons pas notre plaisir, quand bien même il roule parfois sur des pelouses de qualité, disons moyenne. Clap de fin en tout cas hier, comme dans tous les bons films, une suite et même un dénouement spectaculaire sont attendus. Rendez-vous dans quelques mois, comme dans tous les bons films, le suspense est ménagé puisqu'il reste 19 billets à valider pour le Cameroun, 19 sur 24. Seuls 4 pays se sont qualifiés sur le terrain pour l'instant, dont 2 hier, la Tunisie et le Mali seront au casting de la CAN 2022. Et au casting de Radio Foot aujourd'hui, du lourd, des vedettes, bien évidemment. Philippe Doucet à ma droite, derrière une vitre en plexiglas. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Hugo.
Bonsoir et même bonjour, il fait encore... jour oui. Sur Paris, alors on va en profiter pendant encore quelques minutes. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Dominique Sévrac, vous c'est plutôt dans le train bleu que vous avez embarqué ces derniers jours pour un drôle de voyage avec l'équipe de France. Une défaite embarrassante pour commencer, une victoire plutôt séduisante pour terminer hier face à la Suède et entre les deux, un match référence, rien que ça, et un aller simple pour la phase finale de la Ligue des Nations. Le bilan des Bleus, c'est tout à l'heure avec en bonus Antoine Grenier. Merci à toute l'équipe de Radio Foot, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin et le maestro Laurent Salerno. C'est parti.
Le Mali assuré d'être au Cameroun en janvier 2022 après sa victoire en Namibie 2 buts à 1 grâce à Sékou Keïta et Moussa Doumbia.
Le match de trident offensif, un Malien, un Moussa Doumbia qui va les provoquer, les passements jambes de Moussa Doumbia, il est passé le centre, derrière la frappe au premier poteau.
Avec 10 points, les Aigles sont en tête du groupe A.
Oui, les Aigles du Mali, juste avant que la fenêtre ne se referme, la fenêtre des éliminatoires, ils se sont envolés direction le Cameroun. Hier, les hommes de Magasuba se sont qualifiés pour la prochaine CAN. Après à peine 4 journées, 4 matchs de qualification, c'est aussi bien que l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, autrement dit des cadors du continent. Est-ce que ça signifie, Philippe Doucet, que le Mali joue dans cette catégorie ?
Ah, en tout cas, c'est certainement l'un des plus gros potentiels, l'une des équipes les plus en vue de la dernière CAN déjà, même si elle est sortie en 8e de finale, mais bon, contre l'habituel ennemi malfaisant pour le Mali que constitue la Côte d'Ivoire.
Qui entre est souvent, guillemets malfaisant.
Oui, bien sûr, mais qui malheureusement barre la route très régulièrement du Mali, c'est comme ça. Mais en dehors de ça, oui, le Mali fait vraiment partie des meilleurs potentiels, mais on peut pas encore le classer au niveau de l'Algérie, du Sénégal ou autres pays vraiment installés en tête de la hiérarchie, parce que bah, y a pas encore eu de référence, en tout cas dans les catégories seniors.
Alors les Aigles du Mali qualifiés dans le groupe A de ces éliminatoires de la CAN 2022, ils affronteront la Guinée lors de la prochaine journée en mars. La Guinée qui est deuxième dans cette poule, très bien placée également devant la Namibie et le Tchad. Voilà pour qu'on oui. puisse visualiser quels ont été les adversaires oui. du Mali jusqu'ici. Il y a eu un match nul contre la Guinée. Puis
de partout.
Et puis ça s'est mieux passé face à des équipes un peu plus faibles. Hein. Le Tchad notamment est déjà hors course. Néanmoins, il ne faut pas le sous-coter, entre guillemets, ce parcours malien dans ces éliminatoires. C'est pas rien d'être qualifié après 4 journées.
C'est jamais anodin. Puis de gagner à l'extérieur, notamment en Namibie, qui est une équipe qui joue un football assez dur, je trouve. Une équipe qui défend plutôt bien, donc ils ont fait le job. Ça témoigne d'une forme de maturité, parce que c'est un groupe qui est relativement jeune. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui leur manque, c'est peut-être un petit peu d'expérience, mais ils sont en train d'en acquérir. Et en général, on prend aussi un peu d'épaisseur lors de ces éliminatoires, qui ne sont jamais simples à négocier. Le test face à la Guinée au retour sera intéressant, puisque ça sera en Guinée. Rappelons que le de partout à l'aller, lui était du côté de Bamako, qui reste une relative contre-performance pour cette équipe malienne, puisque c'était à domicile. Après, bon, les interrogations, moi je les ai sur peut-être, je sais pas, Philippe, tu les regardes aussi, peut-être sur le poste de gardien de but par rapport aux autres sélections oui, dont vous avez parlé. C'est vrai que c'est aujourd'hui, il y a eu un changement par rapport au premier match lors de la double confrontation face à la Namibie. Là, je crois que c'était le gardien du TP Mazembe qui était titularisé sur le deuxième match. J'avais pas été rassuré par Djigui Diarra sur le premier match, mais c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Et ça, c'est une vraie interrogation du côté du Mali, parce qu'offensivement, ils ont les cartouches, ils ont les munitions, ils ont les talents, ils ont les qualités. C'est vrai qu'ils étaient privés de Marega, qui est quand même un peu le leader offensif.
Est-ce qu'on en sait plus sur son absence? Il y avait un mystère.
Je crois qu'il
n'était
pas très motivé.
Moi,
je peux vous dire ce que je crois savoir. Je crois qu'il n'était pas très motivé pour venir. Après, vous savez, c'est.
Mais il n'est pas venu depuis la CAN 2019. Hein.
Voilà, donc.
Chaque fois, sans donner de raison, sans.
Oui, il n'est pas mis de côté, il n'est pas écarté. Oui.
Sans invoquer une retraite internationale ou autre, mais je pense qu'il reviendra, mais. À l'heure actuelle, il est clairement pas motivé pour jouer ses matchs de qualification.
Voilà, après, on parle d'un joueur d'expérience qui brille en Ligue des Champions.
Quand tu rencontres l'OM, tout le monde brille.
Oui. Enfin, c'est quand même l'avant-centre de Porto. Est-ce que ça veut pas dire ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, du côté du Mali, on a suffisamment de potentiel pour se passer d'un joueur du calibre de Moussa Marega.
Après,
et ça
dépend,
c'est intéressant.
Oui, mais c'est une vraie bonne question. C'est surtout dans la gestion du groupe. Est-ce que ça veut dire qu'il vient à la carte ou est-ce que les autres vont accepter?
Mais ça veut aussi dire qu'on n'a pas forcément besoin de lui, qu'on a de.
Bah, je pense que quand même,
ressources.
Quand ça va s'élever, l'altitude, t'as quand même besoin de ce genre de joueur. C'est un joueur qui est puissant, qui fait des différences, qui apporte de la percussion, qui est efficace, qui, vous avez raison, joue quand même dans un très bon club européen, peut jouer sur les côtés, peut jouer dans l'axe. Alors, moi, je trouve que lors de la dernière CAN, il a pas été au rendez-vous, notamment sur le match face à la Côte d'Ivoire, parce qu'il a gâché pas mal d'actions. Mais bon, ça peut arriver à d'autres très bons joueurs. Mais je pense qu'ils peuvent pas faire l'économie d'un tel joueur. S'ils veulent viser une qualification en Ligue des Champions, en Coupe du Monde,
oui.
Ouais, c'est un peu pareil de toute façon. Il faut quand même des joueurs de Stakabila. Après, des talents, il y en a, on ne va pas tous les citer. Mais au poste de numéro 9, c'est un poste spécifique. Je trouve qu'ils sont mieux pourvus sur les côtés.
El Bilal Touré, c'est un joueur d'avenir. Hein. Vraiment d'avenir.
Mais est-ce qu'il peut porter... N'hésitez pas à en citer quand même des talents maliens pour nos auditeurs, pour les encourager
à regarder les matchs. Il y en a un qui a été cité, mais Bilal Touré, ça reste relativement jeune. Quand il va falloir aller scoltiner, vous tombez en match de barrage contre le Sénégal, ce que je leur souhaite pas forcément. Mais si El Bilal Touré doit se faire gérer par Koulibaly, ça veut pas dire qu'il peut pas prendre Koulibaly, mais il faut un peu de vie, il faut un peu d'expérience. Voilà, je veux dire, El Bilal Touré, c'est un joueur en développement, et d'avoir un numéro 1 bien fixé, bien considéré comme Marega, ça me paraît pas non plus ubuesque.
El Bilal Touré, qui est joueur de Reims, ça fait toujours du bien de le rappeler. Les Aigles du Mali, un dernier mot, Philippe Doucet, pour rappeler que c'est une équipe qui a connu une bonne période au début des années 2010. Je crois qu'il y a eu deux podiums de CAN.
Oui,
il y avait encore évidemment Sédou Keïta pour mener le nid, pour garder le nid. Et puis derrière, ça a été un petit peu plus compliqué, et notamment en interne aussi. Le football malien a connu une crise, et là, ça se relève un petit peu. On peut caricaturer ça comme ça.
Il n'y avait plus de championnat, il n'y avait plus de structure, il n'y avait plus grand-chose, même étatiquement, on peut dire, même politiquement. Et puis, avant, vous avez raison, avant il y a eu une sacrée équipe, il y avait quand même Diarra, Sissoko, Kanouté et devant tout ça, devant Sédou Keïta, enfin je veux dire, ça faisait quand même du beau monde. Donc c'était, mais paradoxalement, c'est pas forcément l'époque où l'équipe a été la meilleure. Elle a été meilleure plus collectivement autour de Sédou Keïta qui était resté, mais les autres étaient partis. Et là, avec Alain Giresse aux commandes et Patrice Carteron ensuite, ils ont effectivement fait deux troisième places. Là, on est dans une période complètement différente, à l'image de plusieurs académies, dont celle de Jean-Marc Guillou, mais c'est pas la seule. Il y a également AFE, qui est une remarquable académie à Bamako. On a une émergence de jeunes. Bon, qui sont parfois d'origine ivoirienne, faut le dire. Hein. Ils ont été ramenés au Mali venant de Côte d'Ivoire.
Comme
très bien.
El Bilal Touré, hein,
comme El Bilal Touré et d'autres. Il y en a plusieurs. Enfin, Doumbia aussi.
C'est le jeu des sélections.
Oui, bon, voilà, c'est le jeu des sélections.
Beaucoup de sélections,
oui,
et pas qu'en Afrique, hein, ça.
Mais en tout cas, c'est le jeu de la formation surtout. S'il faut noter, c'est que c'est vraiment des joueurs formés au pays pour l'essentiel. Et à l'heure actuelle, c'est une super génération quand même qui est plusieurs super générations qui sont en vogue et qui aujourd'hui peuvent un peu bousculer l'échiquier. On a vu que c'était encore un petit peu court en 2019, où à mon avis ils étaient plutôt meilleurs que les Ivoiriens. Mais bon, la marche, l'expérience et autres, ils l'ont pas franchi. On pouvait s'y attendre à ce niveau-là, parce que tout d'un coup, bah voilà, c'est les matchs de haute compétition. Ils ont raté l'étape. Je pense qu'ils en sont sûrement plus proches aujourd'hui. Il y aura une première réponse en 2022 avec la CAN, et puis les qualifs de la Coupe du Monde vont nous situer également le Mali, parce que ça va être, faut le dire, hein, les qualifications pour la CAN, c'est facile. Tout le monde dit oh, les petits pays c'est dur.
On y viendra tout à l'heure. Ne répondez pas à une question que je ne vous ai pas encore.
C'est facile pour des pays comme ça.
Encore posé. Félicitons tout de même les aigles du Mali. D'autres aigles ont pris leur envol hier. J'y faisais allusion il y a quelques instants. Ça va vous faire plaisir, mon cher Nabil Djellit. Les aigles de Carthage. La Tunisie sera elle aussi au Cameroun. Sa 20e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une habituée. Match nul un partout en Tanzanie dans la poule J. Ils ont trouvé l'interrupteur, ils ont allumé la lumière dans les vestiaires. On y reviendra tout à l'heure. C'est Saifedine Rawi qui a inscrit un but, donc qui permet à la Tunisie de valider son billet. La Guinée équatoriale et la Libye sont également dans ce groupe. Je referme la parenthèse. La Tunisie, elle rejoint l'Algérie, qualifiée sur le terrain, sachant que le Maroc s'est presque fait et que l'Égypte a bien redressé la barre dans son groupe au détriment du Togo. Bref, Nabil, ça va bien pour la Tunisie, l'Algérie, ça va plutôt bien pour l'Afrique du Nord dans ses qualifications.
Oui, après, bon, je rejoins quand même Philippe, je veux dire, l'adversité. Quant à les deux premiers pays qui se qualifient, alors, bon, à moins d'un accident industriel, t'accroches au minimum la deuxième place pour un de ces pays-là. Ouais. Après, la Tunisie, hier, elle a fait un match sérieux, elle a plutôt bien joué au foot en première mi-temps. On a vu des garçons, bon, on va parler un peu de Ligue 1, qui sont en jambes. Bon, moi, Kawi, pour moi, c'est un mystère. Ok, je veux bien que ça soit pas Cristiano Ronaldo, mais à Marseille, il n'y a pas non plus de Cristiano Ronaldo. Il est jamais utilisé par André Villas-Boas. Et quand il est utilisé, c'est à contre-emploi. Hier, on a vu quand même que c'était un garçon intéressant, que ça soit à la finition ou dans la construction du jeu avec une belle patte gauche. Il y a également Kazri qui a retrouvé des cannes. Bon, je pense que pour Saint-Etienne, quand même, ça peut être aussi une bonne idée de l'utiliser. Mais globalement, cette équipe tunisienne, elle a fait le job face à, dans cette poule.
Elle est un peu fidèle à elle-même.
Oui, elle est solide et sans génie. Encore
qu'il
y a un
peu. C'est un peu toujours comme ça, quelque part.
Ouais, mais il y a un peu de talent quand même, parce que Msakni, même s'il n'est pas toujours aussi rayonnant, quand il touche le ballon, il peut toujours se passer quelque chose. Elle est sérieuse, elle est bien organisée. Elle a des garçons qui commencent à être un peu installés. Je pense notamment à Dylan Brown, qui a évolué du côté du je mets l'accent un peu.
Ça nous transpose dans une autre réalité. Dylan Brown,
Dylan Brown, qui est franchement un vrai bon joueur de foot du côté du FCMS et qui, avec cette équipe tunisienne, donne des garanties. Après, pareil que un peu le Mali, je sais pas toi ce que t'en penses, Philippe, et toi, Dominique. Le gardien de but, Farouk Ben Moustapha, j'ai quand même quelques doutes.
Ah, toujours.
J'ai vu quelques sorties aériennes, franchement, on dirait
c'est
moi.
C'est très gardien aujourd'hui.
Ouais. On dirait moi qui saute d'un rocher quand je vais au bled. C'est un peu les sorties. Parce qu'une fois, j'avais discuté avec un joueur qui a été formé par le Paris Saint-Germain, qui était défenseur central à Brest, Ahmed Kantari.
Oui.
Et ouais, Ahmed Kantari. Puis on avait discuté du gardien du Maroc, Lamiagri, à l'époque et tout. Ça remonte à plus d'une dizaine d'années et tout. Et puis on rigolait un peu parce que c'est vrai que des fois, il y a des sorties et des plongeons qui sont pas académiques. Et il me disait, on discutait. Je dis, putain, on dirait quand on part au pays, quand on saute d'un rocher, on dirait que les mecs, ils ont les mêmes, c'est un peu la même chorégraphie, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des sorties. Et c'est vrai que c'est une vraie piste d'interrogation. Les sorties aériennes des gardiens de but en Afrique du Nord. Parce que, ça m'interpelle. Donc le poste de gardien,
faut progresser en Afrique du Nord sur le poste de gardien.
La Tunisie,
l'Égypte a des bons gardiens.
La Tunisie est la seule qui a utilisé ses trois gardiens sans avoir la moindre blessure, a utilisé ses trois gardiens lors de la dernière CAN. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment
c'était un poste problématique pour Alain Giresse à l'époque.
Pour le reste, ça tient la route, la Tunisie, et c'est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer, avec laquelle il faut toujours compter.
La RDC, si on parlait d'elle, cette République démocratique du Congo qui n'est pas encore qualifiée, elle n'est même que troisième de son groupe.
Ils sont revenus dans la danse quand même.
Exactement, au moins elle se remet à gagner, succès 1-0 en Angola hier, quelques jours après un nul très décevant à domicile contre cette même équipe, 0-0. Les Léopards retrouvent de l'allant, du mordant, leur vitesse, leur vivacité. Premier succès tout de même dans ces éliminatoires de la CAN 2022 pour eux, grâce au buteur en deuxième période hier, Niskens Kebano.
C'est toujours une fierté quand on peut marquer un but avec la sélection. C'est toujours une fierté, mais après voilà, je pense que le crédit revient à toute l'équipe parce qu'on s'est vraiment battu comme des guerriers aujourd'hui sur le terrain. Ça n'a pas été facile, mais on a su tenir. Je pense que si on n'avait pas d'espoir, on serait pas là aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que justement on y croit. Et je pense que tout le peuple aussi est avec nous, derrière nous, à nous pousser. Donc ensemble, je pense qu'on va le faire.
Niskens Kebano, une réaction recueillie grâce à Kaboulo, Moana, Kaboulo, la RDC encore à un point du Gabon et de la Gambie, les inséparables si je puis dire, ces deux prochains adversaires, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'ils vont le faire, les Congolais, les Léopards
Il va avoir un gros défi parce qu'ils vont au Gabon le prochain match, à, je sais pas où d'ailleurs, mais je suppose à Franceville parce que c'est la seule pelouse jouable au Gabon, mais ce sera un match évidemment clé parce que s'ils perdent et si pendant ce temps-là la Gambie gagne, et bien finalement ils auront fait tout ce qu'ils ont fait contre l'Angola pour rien, ils seront éliminés. La RDC n'est donc pas dans une position, elle s'est redressée. C'est mieux, c'est bon, c'est pas, on n'a pas retrouvé.
Le problème, c'est que
on a pas retrouvé l'équipe de 2015. On en est très loin.
Et dans cette séquence, là, celle qu'on vient de refermer, ce match nul à domicile contre l'Angola, c'est vraiment ce qu'il fallait pas faire, quand même.
Oui, et puis c'était pas beaucoup mieux au match retour. Simplement, on est très heureux qu'ils aient pris 4 points. Bon, très bien. Félicitons-les et félicitons-nous de ces 4 points. Mais bon, on sent bien que c'est encore très très fragile. Et malheureusement, il y a trop de joueurs, pourtant parmi les joueurs les plus cotés de l'équipe, qui soit jouent pas, soit jouent pas dans leur club, donc sont dans des états de forme qui sont pas compatibles avec le haut niveau. Donc malheureusement, l'équipe est relativement relativement peu stable. Maintenant, il se trouve que mars c'est dans 4 mois. Donc bon, voilà, ils seront devant les deux défis essentiels, c'est-à-dire jouer à la fois Gabon et Gambie. Ils gagnent les deux matchs, ils sont qualifiés, bravo, bien joué. On les félicitera. Voilà, s'ils arrivent à prendre 4 points, c'est bon aussi, ça passe aussi.
Faut pas perdre au Gabon.
Mais s'ils perdent au Gabon, on sera pas totalement surpris non plus, parce que leur parcours est quand même très chaotique.
On va rappeler qu'ils ont eu des problèmes dans leur préparation des joueurs absents. On avait annoncé l'absence de Cédric Bakambu qui finalement est arrivé au dernier moment. Ça n'a pas forcément été très simple de préparer la double confrontation contre l'Angola pour la RDC. On va justement parler d'un ancien sélectionneur de la RDC, ancien sélectionneur de pas mal d'équipes, un certain Claude Leroy, et on est
il a même
un petit
été
peu triste.
Du PSG,
il a même traîné ses guêtres du côté du Camp des Loges et du Parc des Princes. Effectivement, Claude Leroy, on est un peu triste pour lui déjà parce que son Togo n'ira pas à la CAN et c'est un deuxième échec consécutif pour lui dans les éliminatoires. Philippe Doucet, et puis je pense qu'on peut le dévoiler, il vient de vivre, il vit un deuil sur le plan personnel. Donc on va lui présenter nos plus sincères et chaleureuses condoléances puisqu'il a perdu sa mère, Claude Leroy. Sur le plan sportif, donc son Togo battu 2 fois par l'Égypte n'ira pas à la CAN. Claude Leroy ne reverra pas le Cameroun, le pays de ses premières amours en Afrique, le pays avec lequel il a remporté la CAN, avec lequel il a disputé la Coupe du Monde. Ça aurait été peut-être une manière de boucler la boucle, même si je ne sais pas quelles étaient ses intentions, c'est un peu dommage pour lui.
Il y avait de ça, il le disait un petit peu, que ce serait une manière idéale de boucler la boucle que de finir par une CAN au Cameroun ou à la tête du Cameroun. Enfin bon, il y avait à l'époque, parce que quand il parlait de ça, c'était déjà il y a depuis plusieurs années, il parle de ça. Bon, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, effectivement, vous l'avez souligné, ses préoccupations ne sont pas là, parce qu'il a perdu dans la même nuit que le match, il a perdu donc sa chère mère, et donc il va évidemment passer à autre chose, mais c'est une grosse déception sportive. Il disait toujours avoir beaucoup de plaisir avec ce groupe très jeune,
oui, parce que finalement,
enthousiaste.
Ça fait pas mal de temps qu'il est là. Il était déjà à la CAN 2017, avec les Éperviers. C'était un peu qualifié de manière miraculeuse, d'ailleurs.
Tout à fait. Ça fait 4 années qu'il est là et il a beaucoup travaillé autour des jeunes, mais malheureusement, il manque quelque chose, quoi. Il n'y a pas le matériel, faut dire les choses. Le Togo n'est pas assez armé en termes de qualité de joueur. Depuis qu'il est là, la retraite d'Adebayor, évidemment, n'a rien arrangé. Sur ce plan-là et c'est un échec puisqu'il a pas réussi pour l'instant, il a pas réussi le match qui renverse un petit peu tout, qui permet à cette équipe de prendre confiance. Malheureusement, à chaque fois elle échoue et on doit regretter pour le Togo le premier match, parce que tout se joue sur le premier match. Qui perd les 2 matchs contre l'Égypte n'est pas en soi un drame national. Par contre, perdre le premier match à domicile contre les Comores, qu'il venait justement d'éliminer de la Coupe du Monde, ce qui était une belle performance à rebours. Maintenant, on la regarde en se disant, tiens, ils ont fait un gros coup en éliminant les Comores dès le premier tour de la Coupe du Monde. Mais par contre, ils ont perdu à domicile leur premier match de CAN. Or, on s'aperçoit que curieusement, le football africain est une véritable exception, parce qu'il demeure très difficile de gagner à l'extérieur en Afrique, même s'il n'y a pas de public, même s'il y a toutes les conditions pour dire que le terrain ne sert plus à rien, si j'ose dire, on ne fait plus la différence. Eh bien si, en Afrique, ça demeure très difficile de gagner à l'extérieur. Et Claude Leroy, enfin le Togo, en perdant ce premier match contre les Comores, c'est condamné.
Et ces derniers jours, le Togo a perdu en Égypte, ouais. 1-0, et puis a perdu sur son terrain 3-1.
Non mais
Nabil Djellit, pas simple effectivement de renouveler une équipe qui était portée par des garçons comme
Romao,
Adebayor, Agassa,
Romao,
un degré moindre, mais voilà, ah, beaucoup, de, beaucoup d'excellents joueurs. Adebayor, on est même un peu au-delà de l'excellent joueur.
Adebayor, ça vous rendait des services, hein, parce qu'il pouvait parfois se débrouiller tout seul pour se créer des situations ou marquer des buts, mais c'est vrai que c'est une équipe... Je l'ai vu, j'ai vu le match en Égypte. Tactiquement, franchement, ça tient la route, c'est organisé, c'est sérieux, c'est discipliné. Mais comme l'a dit à juste titre Philippe, ça manque quand même de talent individuel. Mla pas devant, c'est pas Adebayor, je suis désolé. non, mais je veux dire, sans lui manquer de respect, à un moment, il faut aussi, voilà, il y a des problèmes de niveau pour certains. Il y a des joueurs de qualité qui sont intéressants. Djeneda Konan a pris un peu le relais derrière. Lui, clairement, c'est le patron aujourd'hui.
Lui, c'est là un joueur de niveau européen.
Ah bah lui, ouais, il peut
au
jouer,
moins sur lequel peut s'appuyer le Togo.
Il peut jouer au PSG.
Mais malheureusement, il a été défaillant sur le match d'hier contre l'Égypte, comme quoi... Bah quand on n'a pas la solidité nécessaire, bah même le leader peut vous condamner parce que c'est lui qui a un petit peu condamné le Togo hier, ce qui est très malheureux parce que évidemment d'habitude c'est évidemment le meilleur joueur de l'équipe et de loin.
Mais pour le Togo, il va peut-être falloir tout faire la révolution absolument, peut-être continuer avec ce groupe, continuer à travailler parce qu'il y a quand même des jeunes joueurs. Claude Roy a travaillé sur quelques joueurs du cru également, mais aussi...
Oui, il a fait un travail de détection.
Ouais. Il va falloir les installer, leur laisser le temps, et bon, je sais que la patience, c'est pas forcément une des grandes vertus dans le football, mais à un moment, quand t'as pas un réservoir comme celui du Brésil, bah, il faut être pragmatique.
Le Togo ne peut donc plus se qualifier pour la CAN. Il reste, je le disais, 19 billets à distribuer. Rendez-vous fin mars pour le verdict. Ça s'annonce passionnant, du suspense. Car aussi, les valeurs sûres ne se promènent pas et les soi-disant petits s'affirment ou confirment. On parlait des Comores, justement, qui partagent la tête de leur groupe devant le Togo avec l'Égypte. On peut également citer la Gambie, qui a mal accueilli le Gabon. Oh, et Gambie et Gabon sont devant la RDC, notamment. On peut citer également la Mauritanie, qui est encore bien placée. Ouais, Madagascar, qui est encore pas trop mal placée. Ça, ce sont des petites équipes qui ont participé récemment à leur première CAN et qui restent dans la course. Est-ce que, pour reprendre une expression bien cliché qu'on aime bien... Il n'y a plus de petites équipes. Philippe Doucet, en Afrique, vous avez un petit peu répondu et vous êtes un petit peu moqué tout à l'heure.
Non, c'est vrai que c'est le plus. Il y a des équipes qui accrochent. Vous ne gagnez pas comme vous voulez en Sierra Leone, en Tanzanie.
C'est sûr que quand tu joues sur des terrains de cross, tu joues à 14h à 35 degrés.
Le Ghana ou le Bénin ont pu se qualifier sur des matchs qu'on pensait faciles. Ouais. Pas du tout. Le Nigeria, deux matchs contre la Sierra Leone.
Le Soudan, l'Éthiopie.
Le Zimbabwe.
Des équipes très moyennes. Ouais, le Zimbabwe. Oui, bon, ils sont un peu plus installés, mais des équipes très très moyennes arrivent à accrocher. Même le Soudan du Sud a réussi à gagner un match. C'est dire.
La Côte d'Ivoire fait match nul sur le terrain du Mata.
Oui, absolument. Yeah. Donc oui, mais par contre, si vous regardez les classements globaux, il y aura aucun gros éliminé. Je peux vous l'assurer, aucun gros ne sera éliminé.
Avec le format 24, de toute manière, ils sont très bien protégés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se promènent pas dans le.
Non, ils ne se promènent pas. Ça, c'est vrai. Ils ont du mal à gagner à l'extérieur, comme tout le monde.
Ils se promènent quand il faut se déplacer d'un pays à un autre en très peu de jours. Là, ils se promènent.
Oui, ils font des voyages. Ouais, voilà. Mais ils ne se promènent pas à l'extérieur. On ne gagne pas comme ça en Sierra Leone. Il y a plein de pays comme ça sur les terrains desquels il est très difficile de gagner. D'ailleurs, ce que le Gabon a vécu en Gambie, malheureusement, c'est à la fois une honte, mais c'est très usuel. C'est parmi les éléments, parce que c'est pas toujours comme ça que les Gambiens font, hein, il faut pas non plus exagérer.
On en a parlé dans Radio Foot,
mais ça fait partie des terrains où on n'arrive pas à gagner pour plein de raisons, la qualité du terrain, la chaleur, enfin, on joue dans des conditions qui sont souvent difficiles pour les meilleures équipes qui ont du mal à gagner à l'extérieur, même quand la Côte d'Ivoire domine la Madagascar. À l'arrivée, il faut le finir le match et ils ont pas réussi.
On va rappeler ce qui est arrivé aux Gabonais, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont été bloqués, donc c'était la nuit qui précédait leur rencontre en Gambie, ils ont été bloqués à l'aéroport, les autorités avaient besoin d'inspecter leur passeport pendant apparemment plusieurs heures, une nuit à l'aéroport avant un match.
Test Covid a été le prétexte.
C'est pas pratique, et puis j'y faisais allusion à la Tunisie, privée d'électricité, de lumière dans son vestiaire en Tanzanie, ce sont des choses qui arrivent, mais ne caricaturons pas.
48 matchs, et c'est ça était au programme sur cette fenêtre éliminatoire. Les 48 matchs ont eu lieu comme prévu. D'ailleurs, la Confédération africaine s'en félicite dans un communiqué publié aujourd'hui. Elle se félicite également de sa gestion des tests Covid. 4146 tests effectués, 48 seulement positifs, 30 joueurs, 18 officiels. Ça fait moins de 1% des personnes testées. En tout cas, les matchs ont eu lieu et parfois il y avait des incertitudes. Je pense à Côte d'Ivoire, Madagascar, tout a eu lieu. Alors il y a eu du huis clos, des joueurs positifs au Covid, des mésaventures qui n'arrivent pas qu'aux Africains. Ça se passe aussi en Europe, bien sûr. Donc ce retour des matchs officiels en Afrique, il a eu lieu, il a bien eu lieu malgré les quelques mésaventures.
Un peu au forceps, parce qu'il a fallu pour ça des règlements un peu draconiens. Il a fallu dire non à tous ceux qui ne voulaient pas jouer, qui estimaient qu'ils n'étaient pas dans les meilleures conditions, etc. Bon, mais comme fait l'UEFA aussi, hein, il faut le reconnaître tout à fait. Et la CAF a raison de se satisfaire, même s'il y a eu des conditions parfois épiques et des voyages extraordinairement difficiles pour plein de pays et que ça engendre des coûts considérables. Dès qu'il y a une double date en Afrique, c'est un enfer pour les fédérations, ça leur coûte une fortune. Bon, mais à l'arrivée, 48 matchs ont été programmés, les 48 ont été joués, aucun dans des conditions dramatiques en ce qui concerne le nombre de joueurs disponibles. Donc bravo à la CAF, parce que c'était pas gagné du tout,
enfin,
du tout.
Enfin bravo à la CAF, moi je les attends quand même sur le cas de la Gambie.
Aussi.
Si à un moment, faut arrêter quoi. Je veux dire, je me souviens également que la sélection algérienne avait été jouée, rien contre les Gambiens évidemment, ils ont pas le monopole parfois de ce genre de comportement. Je me souviens que la sélection algérienne avait été jouée il y a un an et demi aussi en Gambie. Ils avaient mis trois quarts d'heure pour arriver à réussir à aller sur le terrain. Sur la main courante, c'était un cirque incroyable. Donc, il y en a qui peuvent te dire, ouais, c'est l'Afrique, mais moi, je suis pas pour la fatalité. Il y a un moment, l'Afrique est capable aussi de s'organiser. On le voit dans les 90% des pays. Donc, quand il y a des sorties de route comme ça, il faut envoyer un signal pour pas que ça se reproduise. Parce que si on n'envoie pas de signal, on en revient toujours au même type de comportement et de dérive, et qui renvoie le football et l'image du football africain à une forme d'amateurisme, ce qu'il ne mérite pas.
Alors rappelons que le Gabon a battu la Gambie lors du premier match de cette double confrontation et s'est fait battre en Gambie. Et donc après ses aventures à l'aéroport, à son arrivée en Gambie. En revanche, il y a une belle histoire qu'on peut raconter. Le Lesotho a joué au Bénin et a eu des difficultés à rentrer au pays pour accueillir le Bénin. Du coup, ce sont les Béninois qui ont permis le rapatriement de la délégation du Lesotho au Lesotho pour pouvoir tenir le match retour qui a lieu cette fenêtre éliminatoire. Donc un beau geste de la part des Béninois qui ne sont pas encore qualifiés, mais c'est bien parti dans le groupe du Nigeria pour les écureuils.
Un très beau geste de la part des Béninois, mais moi je suis très très étonné qu'on en soit à se satisfaire de ça, alors que quand la CAF a inventé les doubles dates, que l'Afrique voulait pas faire des doubles dates. Ça date de 5-6 ans, pas plus.
Hein, ce moment charnière, fin des matchs aller, début des matchs retour, on a voilà. La même équipe.
Et justement, s'ils l'ont fait sur cette double date de la J3, J4, c'est que les deux mêmes équipes s'affrontent. En se disant, et la CAF avait fait ça, en se disant, bon, d'habitude c'est très difficile de faire deux dates, mais là ça va parce que les deux équipes peuvent voyager ensemble. Et quelle n'est pas ma surprise, qu'en fait, aucune équipe ne voyage ensemble. Chacune prend son billet d'avion. Quand je dis billets d'avion, c'est souvent des avions privés qui coûtent une fortune à l'État à l'arrivée, parce que c'est pas la fédération qui peut payer, donc c'est évidemment l'État. Donc je suis très très étonné que finalement ce que le Bénin a fait, et qui est très très bien, mais ne soit pas généralisé, parce qu'il y a bien longtemps, qu'est-ce qu'il y a comme risque à voyager les deux équipes ensemble? Franchement, c'est dans l'avion que les secrets compo du match retour vont être sus. Non, franchement, c'est ridicule.
Là, c'est ce qui s'est passé. Et ça nous donne une belle histoire de fair play. On a été ravis de revoir les sélections africaines pour des rencontres officielles et on leur donne rendez-vous.
Je donne juste un exemple pour conclure là-dessus. Le Togo a pris un avion, une ligne régulière. Ils sont partis samedi à minuit. Ils sont arrivés dimanche à 13h à Lomé. Et ils jouaient mardi, ça veut dire qu'ils sont entraînés 55 minutes le lundi. Bon, on peut pas jouer dans ces conditions-là, c'est pas possible. Alors c'est pas très difficile que tout le monde se parle et fasse en sorte qu'on programme les matchs déjà qu'il y ait 4 jours entre deux matchs. Alors, vous voyez, j'ai dit du bien de la CAF tout à l'heure, mais là, il y a des moments où non, ça va pas. Il faut laisser 4 jours entre deux matchs et qu'on voyage correctement, que tout le monde puisse voyager correctement. Mais bon, apparemment, c'est trop compliqué à faire.
Vous auriez dû présenter votre candidature hein, pour la présidence.
Il y a déjà plein de candidats.
C'est un peu trop tard. Et justement, hein, l'élection du nouveau président de la CAF, ce sera en mars, avant la suite et la fin des éliminatoires de la CAN 2022. Vrai, on suivra ça, bien sûr, sur RFI et dans Radio Foot. Hey
Jude, don't make it bad. Passement de jambe de Marcus Thuram, le petit ballon.
Oui,
pour Olivier Giroud, qui vient tromper Robin Olsen. Quel contre Olivier Giroud à la conclusion, qui a inscrit son 43e but sous le maillot bleu. Kylian Mbappé, le centre de Mbappé.
Et oui, c'est sur l'air des Jude, des Beatles, que les fans d'Arsenal avaient l'habitude de célébrer Olivier Giroud. Je ne sais pas comment ils le prononçaient à l'anglaise.
Giroud.
En France, nombreux sont ceux qui ont la dent dure contre lui. Eux, ils écoutent plutôt Booba que les Beatles. Mais ils ferment encore et toujours des bouches, Olivier Giroud. Un nouveau doublé en bleu pour lui hier au Stade de France contre la Suède. 44 buts en équipe de France pour l'attaquant de Chelsea. N'est plus qu'à 7 longueurs du record de Thierry Henry. On en parle dans un instant. Juste le temps de vous rappeler que le doublé de Giroud, hier, il a permis à l'équipe de France de refermer une étonnante séquence de 3 rencontres. Défaite 2-0 à la maison contre la Finlande, victoire 1-0 au Portugal, puis victoire 4-2 contre la Suède ce mardi. Les deux derniers matchs, ils se jouaient dans le cadre de la Ligue des Nations, une compétition à laquelle nous ne comprenons rien. Alors je vais simplifier, la France est en demi-finale, elle est en tête de sa poule, elle est même pour l'instant la meilleure équipe de la compétition à l'issue de la phase de groupe. Ça fait forcément plaisir à Didier Deschamps.
Nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe en Europe a fait mieux ou fera mieux. Et on avait quand même dans notre groupe le vice-champion du monde et le champion d'Europe en titre. Je pense quand même qu'il faut apprécier ce qu'on a été capable de faire en 3 mois sur 8 matchs, avec 2 matchs amicaux. Il faut savourer. Et puis aujourd'hui, c'est une question de panache aussi. Mettre 4 buts, on a eu 8 ou 9 occasions. On aurait pu en mettre plus. On peut toujours moins en prendre, mais on a maintenu le niveau. Bravo à mes joueurs, à l'ensemble du groupe.
Dominique, c'était bien cette virée dans le train bleu. C'était bien hier cette soirée au Stade de France. Faites-moi un peu le bilan de votre trêve internationale.
Franchement, c'est pas toujours génial l'équipe de France, mais c'est toujours bien. Il se passe toujours quelque chose. C'est dans ce monde.
On a l'impression qu'il est encore sous l'ivresse de son voyage avec l'équipe de France, de cette aventure.
Où le coronavirus a éteint tout. Y compris le football, il a vidé de sa substance. C'est très difficile de s'intéresser à du foot en ce moment, puisqu'il manque une des composantes essentielles, le public, la passion, la ferveur. Il y a juste des joueurs qui jouent mécaniquement pour remplir des contrats télé, pour honorer des contrats télé. Et ben l'équipe de France, j'ai trouvé autre chose. Pour une fois, ça fait 6 mois qu'on vit dans ce foot confiné, déconfiné, où c'est un petit peu mécanique, robotique. Et là, j'ai retrouvé une joie de vivre, j'ai retrouvé du foot, j'ai retrouvé des enchaînements. J'ai oublié qu'on était encore dans un stade à huis clos, j'ai oublié qu'il y avait une pandémie qui fausse tout. Et ça, c'est l'équipe de France qui le permet, donc c'est plutôt sympa. Je trouve, hein.
Bah
c'est un ressenti très personnel.
C'est
hein.
Assez sympa comme témoignage. On va voir si l'envoyé spécial de RFI qui était à côté de vous, que vous avez retrouvé aussi avec joie. Il n'y a pas que les joueurs qu'on retrouve avec joie, également les confrères.
On a le droit que de se rencontrer avec nos amis confrères. Donc Antoine, ça fait du bien.
Exactement. Antoine Grenier est avec nous. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hugo. Bonsoir Dominique. Bonsoir tout le monde.
Alors racontez-nous, vous, votre séjour au plus près des Bleus. Vous aviez connu les vraies montagnes russes, hein, l'épopée de 2018. Là, c'est plutôt des montagnes russes en termes de résultats. Ça avait mal commencé, cette déroute contre la Finlande. Et qui aurait pu penser que derrière, il y aurait ce grand match face au Portugal. Et puis, cette victoire taille patron hier contre la Suède. Racontez-nous un petit peu ces derniers jours.
Et ben pour ceux qui connaissent un peu le Père Noël est une ordure, quand Thierry Lhermitte parle du bon coup de talon et vous remontez à la surface, ben c'est exactement ça auquel on a eu droit. On a eu droit au naufrage collectif de la Finlande qui faut le reconnaître quand même, a surpris tout le monde, parce que perdre contre une équipe qui est classée entre la Grèce et le Mali au classement FIFA, c'était pas forcément ce qu'on attendait des Bleus, même des remplaçants. Et puis ensuite, eh ben, j'ai ressenti exactement la même chose que Dominique. C'est-à-dire, au Portugal, j'ai vibré comme rarement. J'ai vibré ces deux dernières années avec l'équipe de France. Dans les dernières minutes, j'étais tendu, mais c'était assez inhabituel. Et je me suis enthousiasmé sur les buts, notamment d'Olivier Giroud et de Benjamin Pavard contre la Suède. Donc on a retrouvé avec cette équipe de France en fin d'année 2020 des émotions dont on avait un petit peu besoin après tous ces confinements, ces reconfinements. La France a retrouvé du jeu, et s'il y avait eu des supporters, elle aurait pu retrouver aussi l'amour de ses supporters.
Et comme un symbole, effectivement, Coman, mais surtout Pavard, on marquait hier, et Pavard, il a marqué un copier-coller, mais un but qui ressemblait étonnamment à celui qu'il avait inscrit, très célèbre, contre l'Argentine en Coupe du Monde. Antoine, Dominique Sebrac, d'abord, forcément, c'est le match face au Portugal, le week-end dernier, cette victoire 1-0, taille patron, avec vraiment du contenu très intéressant qui est un peu le point d'orgue de cette séquence équipe de France, et même le point d'orgue de ce que l'équipe de France a pu vivre après la Coupe du Monde 2018.
Oui, et peut-être même les meilleures 45 premières minutes de l'ère Deschamps, qui a commencé il y a 8 ans. Il a battu hier le record de longévité de Michel Hidalgo au poste de sélectionneur. Il a plus de 3100 jours. Donc il est devenu le sélectionneur français le plus, la longévité la plus prononcée. Michel Hidalgo pourra pas revenir, malheureusement. Donc c'est Didier Deschamps qui est là depuis 8 ans, et samedi 14 novembre au Portugal, on a peut-être vu ce qu'il a fait de mieux, ce qu'il a réussi à procurer de mieux en équipe de France, parce que parfois il y a un débat avec Didier Deschamps. Est-ce que c'est trop réaliste? Est-ce que c'est trop pragmatique? On s'ennuie un peu.
Trop peu ambitieux.
Voilà, c'est juste le résultat pour le résultat. Là, je pense qu'on avait tout. Et ça veut dire que peut-être que les Bleus progressent aussi. Non seulement ils ont gagné la Coupe du Monde, mais ils semblent plus relâchés, et ils semblent toujours autant aimer les gros matchs avec l'odeur de souffle, les matchs couperets, les matchs importants. Ce Portugal-France de samedi à Lisbonne, c'était un peu une finale de l'Euro avant la lettre. Qu'est-ce qu'il y a en demi en Europe en ce moment? Il y a peut-être la Belgique et le Portugal.
Parce que l'Italie est pas mal, mais bon, bref.
La revanche de la finale de l'Euro, ouais. C'était le champion du monde contre le champion d'Europe. Effectivement, on pouvait faire difficilement mieux comme affiche. Vous êtes d'accord avec ce que dit Dominique Sebrac, j'imagine, Antoine Gronick, après si j'ai distribué la parole dans le studio. Il y a des certitudes sportives. Non, mais au-delà du plaisir qu'on a pu prendre, c'est une vraie progression pour cette équipe de France, trêve internationale, Antoine.
Oui, exactement. Vous savez, entre Dominique Sebrac et moi, c'est comme entre Didier Deschamps et Olivier Giroud. Il n'y a pas un papier de cigarette entre nous deux. On est d'accord sur tout.
Qui relance qui, alors ?
On se soutient tout le temps. Non, il y a une progression du côté de l'équipe de France, au sens où jusque-là, on avait beaucoup de mal à voir les remplaçants être décisifs, intéressants. Et Kingsley Coman, en sortant du banc, a marqué contre la Suède. Bon, un but dans le but délaissé par le gardien suédois en toute fin de match. Mais on a vu aussi un Marcus Thuram qui est rentré contre le Portugal et qui a fait une rentrée qui était plutôt intéressante. De ce point de vue-là, il y a peut-être un axe, un vrai axe de progression, parce que on s'était dit après la Finlande que Didier Deschamps allait s'économiser bon nombre de nuits blanches à réfléchir, à savoir si Wissam Ben Yedder pouvait éventuellement être le successeur d'Olivier Giroud, à savoir si Kurt Zouma ou Clément Langlais pouvaient avoir leur place dans la défense centrale en début de match. La réponse est maintenant non, en tout cas pas au niveau auquel ils étaient avec la Finlande. Donc de ce point de vue-là, ça éclaircit s'il y avait besoin d'éclaircir encore un petit peu plus la réflexion de Didier Deschamps. Et dans la perspective des éliminatoires de la Coupe du Monde qui débuteront en mars, et où la France aura un groupe de 5, hein, grâce à sa qualification en Ligue des Nations en phase finale, enfin bref, on ne comprend rien, mais je le précise quand même. ça prouve aussi que Didier Deschamps, il a pas voulu dire hier combien de joueurs étaient assurés de venir à l'Euro avec lui, mais il a entre 17, on va dire 18 joueurs qui sont assurés, sauf blessure, d'être à l'Euro avec lui, et ça va lui permettre de travailler sereinement.
Beaucoup de certitudes pour Deschamps, la plus grande de ces certitudes peut-être, un certain Olivier Giroud, donc jamais titulaire en Première Ligue anglaise, un seul but en Cup cette saison, qui semblait avoir perdu sa place en équipe de France après le bon match de Martial au Portugal, mais un bon match sans but, et ça c'est redoutable quand vous êtes en concurrence avec Giroud en équipe de France, qui a donc signé un doublé contre la Suède hier, 44 réalisations pour lui sous le maillot bleu, de quoi faire réagir celui qui en compte 7 de plus et qui sent le souffle de l'ancien Montpelliérain sur sa nuque et sur son record, Thierry Henry.
Le numéro 9 de l'équipe de France.
Je dois rester à ta place. Je dois rester à ta place.
Sur ce nouveau but d'Olivier Giroud.
Reste à ta place là, reste à ta place là. Viens pas dans ma zone. Viens pas dans ma zone.
Et ça fait 44 désormais sous ce maillot de l'équipe de France pour Olivier Giroud.
Présente ta zone. Présente ta zone. Si c'est ma zone. Si
c'est
ma zone.
C'est très clair. Hein.
Oui, mais on est un peu dans du mauvais esprit. Là, il ne parlait pas d'Olivier Giroud dans le véritable extrait Thierry Henry. Il parlait des préceptes tactiques du Barça. Il faut rester dans sa zone. Mais on a un petit peu réarrangé ça. On a trouvé ça sur Twitter. Et puis, on a ajouté un bruit de voiture, un bruit de karting sous la voix de Thierry Henry. Il me semble qu'un certain Karim Benzema avait comparé Olivier Giroud a un karting, Benzema, Henry, dans des genres différents, des joueurs plus talentueux que Giroud, sauf que voilà, Giroud 44 buts, il est
en
à 7 longueurs.
Amicaux aussi.
Il est à 7 longueurs. Navid Djellit.
Non mais faut être.
Il a déjà battu
record
Henry,
en équipe de France.
Faut être jusqu'au bout.
De Thierry Henry. Alors on va pas refaire le débat. Olivier Giroud est-il bon, est-il pas bon. Ce qui est certain, c'est qu'il était, il est un peu nulle part en club et il était un peu nulle part en équipe de France il y a encore quelques jours. Il revient très fort. Autre exemple, Rabiot, cas différent, mais Tricard il y a 2 ans, et là qui s'impose comme un titulaire en puissance. Est-ce que ces deux exemples ne sont pas la preuve d'un management quand même de très haute volée de la part de Didier Deschamps? Qui d'autre peut faire ça? Prendre un attaquant que personne ne prend et qui finalement continue de marquer, et un joueur complètement Tricard que personne n'aime quelque part et qui redevient indispensable. Philippe Doucet, ça vous inspire quoi ce management à la Deschamps?
D'abord, je suis pas d'accord du tout avec vous. Je pense que pratiquement tous les sélectionneurs, les entraîneurs qui entraîneraient l'équipe de France prendraient Giroud. Je dis pas qu'il en ferait un titulaire. Oui. Il y a plein d'entraîneurs qui en feraient pas de titulaire, un titulaire.
On lui accordait cette confiance-là.
Mais d'être dans les 23, je pense qu'avec n'importe qui, vous mettez n'importe qui à tête d'équipe de France, je vois pas très très bien quel est l'entraîneur qui ne prendrait pas Giroud. Franchement. Il serait dans les 23 à coup sûr.
Peut-être Romain Domenech, peut-être.
Il prenait pas Benzema non plus.
Dehors des réponses humoristiques, je n'en vois pas. Voilà.
Non mais.
Par contre, sur ce management, quand même, cette capacité à en tirer ce qu'il en a tiré, Deschamps, à chapeau, parce que c'était pas une évidence du tout, effectivement, Giroud n'est pas une évidence à la tête de l'attaque de l'équipe de France, même si, bon, le vrai leader, c'est Griezmann, c'est pas lui le vrai leader de l'équipe de France, mais malgré tout, il est quand même le 9 de l'équipe de France, et rien que ça,
c'est gagnant-gagnant, hein, puisque.
Bien sûr.
Giroud lui rend cette confiance.
Complètement, mais c'était pas gagné d'avance.
Et celui qui est justement, débat, il y a une preuve de management.
Mais oui, et celui qui est le débat en permanence, parce que vous dites le débat il est permanent, mais celui qui est le débat c'est Giroud, en fait. On va tous avoir des avis sur le footballeur. Nabil, il a l'air d'être moins fan qu'un autre.
Mais disons que vous ouvrez les réseaux sociaux lors d'un match de l'équipe de France, vous voyez bien que Giroud ne fait pas l'unanimité.
Son histoire, malheureusement, il en est pas responsable. Lui, dans l'histoire, il a rien demandé, évidemment, mais il est forcément lié à Benzema
qui va marquer lors de l'équipe.
Enfin, c'est comme ça.
Mais non, parce que quand Benzema venait, c'était les deux étaient là. Ouais. Donc en fait, je comprends pas, c'est éventuellement les fans de Valbuena qui pourraient lui en vouloir.
Le fait d'être titulaire lors de la Coupe du monde mais de ne marquer aucun but alors que vous êtes le numéro 9, il y a toujours des bouches à fermer quand on est Olivier Giroud.
Mais après vous pouvez avoir plusieurs lectures. Moi, je pense qu'il est en tournoi final. Et dans les matchs qui comptent, il est surtout important pour Mbappé et Griezmann, parce qu'il fait le ménage un peu pour les autres. Et eux, ils vont pas se plaindre de lui. Tout le monde le sait que dans les coulisses et tout, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais eux, Giroud, ça les arrange. Ils croquent pas le ballon. C'est pas lui qui va forcément briller dans ces moments-là. Et c'est bien, parce que c'est une forme de complémentarité. C'est comme Firmino, Salah, Mané, même si Firmino est plus doué, je pense, techniquement que Giroud. Chacun a son rôle. Lui, c'est ça qui est. Lui, c'est un lien finalement qui l'apporte. Maintenant, si vous me demandez mon opinion, moi, je préfère Martial, mais tous les jours. Et en revanche, avec ce quoi je ne suis pas d'accord, c'est quand Martial fait un bon match face au Portugal, qui est quand même un adversaire redoutable et qu'il ne marque pas, ce qu'on retient, c'est qu'il ne marque pas. Mais les situations, il se les crée. Et quand Giroud fait le même match contre un gros adversaire et il ne marque pas, là, ce qu'on ne retient pas, c'est qu'il ne marque pas, mais c'est qu'il est utile aux autres.
Allez, Antoine Grenier, je parlais du management à la Deschamps, on parlait de Giroud et je reviens sur Rabiot qui semblait complètement perdu pour l'équipe de France et qui là est revenu en force. Il faut être Didier Deschamps pour arriver à relancer un joueur comme Adrien Rabiot. Vous en pensez quoi, vous?
Bah, disons que là, c'est une gestion sur le temps long qu'il a fait Didier Deschamps avec Adrien Rabiot. C'est-à-dire qu'il s'est donné du temps. Il a donné du temps à Rabiot pour réfléchir à ce qui s'était passé. On rappelle, hein, il était réserviste pour la Coupe du Monde. Rabiot a refusé ce rôle de réserviste en écrivant une lettre, en disant qu'il comprenait pas le choix du sélectionneur. Bref, que ça aurait pu monter très très haut. Et en fait, Didier Deschamps a laissé du temps aussi à Rabiot. Les ponts n'ont jamais été totalement coupés. Deschamps a été assez malin pour pas braquer Rabiot définitivement, en donnant pas dans la surenchère. Il a pas réclamé des excuses de Rabiot, parce que là, ça aurait été casus belli. Et avec le caractère qu'il a et avec la mère qu'il a aussi, bah Adrien Rabiot, il aurait tourné le dos à l'équipe de France pour ça. Et puis ensuite, une fois que Deschamps a rappelé Rabiot à un moment en plus où les médias étaient loin, où il y avait pas de pub, donc où la pression était vraiment quasiment au minimum, et ben il l'a traité comme un joueur normal. Et de son côté, il faut lui reconnaître ça aussi, hein, Rabiot a été assez intelligent pour ravaler cet orgueil blessé en 2018 et comprendre que au milieu de terrain, il avait clairement une place à prendre après le départ de Matuidi. D'ailleurs, il a récupéré son numéro 14. C'est pas forcément un hasard. Ce cas Rabiot, pour moi, c'est un modèle de gestion sur le temps long et qui est à mettre au crédit de Didier Deschamps et de son staff, parce qu'il ne travaille pas tout seul. Et quand on voit les performances de Rabiot, les deux derniers matchs qu'il a fait, il fait certainement partie des 17-18 joueurs dont je parlais et qui seront indéboulonnables en vue de l'Euro.
Vous aviez raison hein, tout à l'heure, Dominique Sebrac. Bois vos paroles, il est d'accord avec tout ce que vous dites.
Je suis d'accord avec mon fils spirituel et aussi, comme pour Giroud, le mérite, on revient aussi grandement à Adrien Rabiot, parce que moi, je l'ai quitté au Paris Saint-Germain sur un conflit avec le club, donc il est parti libre. Je retrouve un joueur quand même qui a changé un peu de dimension. C'est pas exactement le même joueur que je voyais. Et je me dis...
Le fait d'être parti à la Juve. Juventus Turin, pardon.
J'ai l'impression qu'on bosse très très bien à Juventus de Turin et qu'on bosse un peu mieux qu'au Paris Saint-Germain, parce que je vois un joueur qui a étoffé son jeu, je vois un joueur qui techniquement s'est bonifié, et pourtant la base était déjà élevée, je vois un joueur qui en termes de musculature a aussi pris du volume et de l'épaisseur dans le bon sens du terme. Donc je me dis, il y a toutes les raisons qu'Antoine a données, mais il y a aussi tout le travail que lui il a fait depuis deux ans, un an et demi, qu'il est parti du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est plutôt embêtant pour nos clubs français, parce qu'on est censé être dans l'élite là, avec le Paris Saint-Germain, dans le top 8 européen. Et ben, il y a encore du retard vis-à-vis de joueurs comme de clubs comme la Juventus Turin.
En tout cas, tout va vite hein, dans le oui. football là pour. Voilà, on va terminer l'émission sur un énième cliché, mon cher Philippe Doucet. Tout va quand même très vite. Imaginez Adrien Rabiot indiscutable comme ça en équipe de France, recevoir les éloges de Dominique Sévrac et de tout le monde autour de ce micro. On s'y attendait pas quand même. Hein.
Non, on s'y attendait pas forcément parce que le joueur a évolué. Là, Dominique l'a très bien décrit. Il a énormément changé. Et là où il faut s'attendre, par contre, à tout, c'est que Didier Deschamps, on dit toujours pragmatique. Je dirais tout simplement intelligent et il a besoin de bons joueurs. Je vous assure que si Griezmann n'était pas sorti au moment de 2015, Benzema serait revenu en équipe de France. Parce que Didier Deschamps en aurait eu besoin. Il se trouve que Griezmann est sorti.
Et de l'histoire,
il est devenu leader et a marqué plein de buts. Donc l'histoire, elle est sortie autrement. Mais Didier Deschamps, il a besoin d'une équipe compétitive. Il veut gagner. Je vais pas dire quel que soit n'importe quoi. Je veux dire, non. Mais il veut gagner. Il veut les meilleurs joueurs. Récupérer Rabiot, c'est habile, mais normal. Normal.
Mais Hugo, tout va pas forcément.
C'est pas les bisounours.
Tout va pas forcément vite dans le foot. Hein. C'est aussi eux qui changent le regard qu'on porte sur eux.
On partira là-dessus à méditer, mon cher Dominique Sévrac. Merci Philippe Doucet, merci Nabil Djellou. Merci Antoine Grenier, merci David Finzel, merci Laurent Salano. Demain, Annie revient. En attendant, excellente soirée à l'écoute de RFI.